Chapitre 27. Jane se lava le visage à l'eau et au savon dans le lavabo des toilettes, puis elle se sécha à l'aide d'une serviette. Elle se regarda dans la glace sans reconnaître ses yeux, inquiète de savoir si elle serait capable d'accomplir la tâche qui l'attendait. Elle n'avait jamais passé beaucoup de temps devant un miroir, même lorsqu'elle était jeune, de peur d'y retrouver les traits de sa mère. Le visage qu'elle voyait lui rappelait trop le trouble, le doute, la peur et la lâcheté qui l'avaient paralysée lorsqu'elle n'avait pas trouvé, à l'âge de 9 ans, la force d'accuser son père d'avoir tué sa mère. Elle savait pourtant qu'il l'avait assassinée avant de maquiller sa mort en suicide. Les gens grandissent et changent. Ils acquièrent de haute lutte un certain degré de maturité et de sagesse, mais le miroir leur renvoie invariablement ce qu'ils ont été. La lâcheté n'était pas en cause cette fois. Elle n'avait pas besoin de courage pour donner à Booth Hendrickson ce qu'il méritait, mais il lui faudrait se montrer impitoyable. Elle devait s'endurcir. Pas tant vis-à-vis du monde qu'à l'égard de tous ceux qui ne savaient pas reconnaître chez autrui leur propre humanité, qui s'attribuaient à eux seuls le droit de vivre, qui se nourrissaient de pouvoir comme d'autres ont besoin d'air et d'eau. La planète avait toujours porté des nuées d'individus sans scrupules, mais leur nombre croissait de façon inquiétante, à présent que les avancées technologiques les autorisaient à concentrer entre leurs mains des pouvoirs dont n'auraient pas osé rêver les monarques d'autrefois. Elle ne pouvait pas user avec Hendrickson des techniques d'interrogatoire qu'il avait si bien aidé avec ses victimes précédentes. L'arrogance de Booth était une armure quasiment impénétrable. Tout comme son frère, il avait été marqué dès l'enfance par un nœud gordien qui n'avait fait que grossir depuis. L'homme qu'elle tenait à sa merci paraissait aussi solide qu'un chêne, mais il était pourri jusqu'à la moelle. Hendrickson était un labyrinthe de duperies dont elle accueillerait les révélations à ses risques et périls. Elle n'avait d'autre choix que de se montrer cruelle avec lui, consciente que l'argument était fragile, puisque la plupart des psychopathes se justifiaient de la même façon. Elle ferma les yeux et s'efforça de voir son fils dans sa tête, tel qu'elle l'avait vu la dernière fois dans le champ voisin des écuries de Gavin et Jessica Washington. Elle le revit dans la lumière du matin, à l'ombre d'un chêne, debout sur un escabeau, démêlant la crinière de Anna, la pouliche que lui avaient offert Gavin et Jessie quelque temps plus tôt. Une petite brise agitait ses cheveux bruns et bourriffés, hérités de son père. Quant à ses yeux, du même bleu que ceux de Jane, ils restaient porteurs d'une innocence qu'elle avait perdue de longue date. À chacune de ses rares visites précédentes, il l'avait raccompagnée jusqu'à sa voiture à l'heure du départ, avant de la regarder s'éloigner. La dernière fois, il n'avait pas supporté l'idée d'une nouvelle séparation et il lui avait fait savoir, par l'intermédiaire de Jessica, qu'elle devait feindre d'aller lire dans la pièce voisine ou dans la véranda, de sorte que les mots « au revoir » ne soient jamais prononcés. Elle avait donc observé la scène à distance, fière de constater qu'il devenait rapidement un excellent cavalier sous la tutelle de Gavin, heureuse de voir que Anna était intelligente et qu'elle s'entendait à merveille avec Duke et Queenie, les deux bergers allemands des Washington. Elle n'avait pu retarder indéfiniment le moment de la séparation, consciente que chaque minute supplémentaire doublerait son chagrin à l'heure du départ, et que si elle ne partait pas immédiatement, elle ne partirait jamais. Elle avait surpris trop de secrets, dérangé trop de gens dont le pouvoir et la richesse se doublaient d'une arrogance et d'une malfaisance implacable. Quand bien même elle aurait voulu abandonner la lutte, ses ennemis n'auraient jamais lâché sa piste et l'auraient poursuivi jusqu'au bout du monde. En découvrant sa cachette, il trouverait celle de Travis. Aucun pays lointain, aucune existence anonyme, aucun nom d'emprunt n'arrêterait ses poursuivants. Eux qui voyaient tout depuis le ciel, disposaient de 100 millions de caméras de surveillance, dominaient la toile d'araignée d'Internet qui leur permettrait un jour de s'introduire impunément dans le sanctuaire de n'importe quel terrien. La mort dans l'âme, elle avait embrassé Travis sur la joue pendant qu'il s'occupait de Anna, précisant qu'elle partait se promener au lieu de quoi elle avait traversé la maison, retrouver sa voiture et démarrer en combattant la buée qui l'empêchait de voir la route, alors qu'un beau soleil brillait dans un ciel sans nuages. Elle se regarda une dernière fois dans la glace des toilettes de la famille Mendez et comprit qu'elle serait désormais capable de commettre les horreurs nécessaires à la défense des innocents. Au-delà de son fils, il s'agissait de rendre hommage à tous ceux dont l'âme avait été fauchée par les Arcadiens. Et personne ne lui en tiendrait rigueur le jour du jugement dernier. Jane ne se faisait toutefois aucune illusion. Elle savait déjà que l'acte qu'elle s'apprêtait à commettre la hanterait jusqu'à la fin de ses jours.